Cécilia Roux, bonjour.
Bonjour.
Qui est présente à Genève pour juste avant la première de votre film, Adieu Jean-Pat, chez votre distributeur suisse, Agora. Et nous allons parler donc d'abord un peu de vous, parce qu'il y a peu sur vous. J'ai un peu lu, mais en fait, vous êtes une femme mystérieuse. Donc j'ai juste lu que vous avez fait une tentative comme actrice à 12 ans. Donc quand je dis, il y a des erreurs. Hein. Et que du coup, ça vous a convaincu de passer derrière la caméra.
Exactement.
C'était pas concluant.
Alors c'était à la fois très concluant parce que c'était une expérience très joyeuse avec plein d'autres enfants. C'était un film qui s'appelle toujours La fracture du myocarde, réalisé par un type charmant qui s'appelle Jacques Fonstein. Et donc c'était toute une bande d'enfants, c'était absolument divin comme expérience. À ceci près qu'il y a beaucoup d'attentes quand on est acteur et quand on a 12 ans, on n'a pas du tout envie d'attendre. Et puis moi j'étais tombée amoureuse du premier assistant et je voulais être lui. Parce que lui il avait un talkie-walkie. Et qu'il avait, j'avais l'impression qu'il gérait la terre entière, que
un chef d'orchestre.
Il était magnifique, il gérait tout, il connaissait tout, et je trouvais que c'était génial et j'ai voulu faire ça.
Donc c'est grâce au premier assistant, grâce à l'amour que vous êtes devenue cinéaste.
Sans doute un peu des deux.
Les deux.
C'est l'amour et le premier assistant. Mais je suis devenue, je pense que j'ai, alors mon père et ma mère étaient très cinéphiles.
Et documentariste, votre père.
Mon père, quand j'étais petite, il était prof, mais il est devenu documentariste. Mmh. Mon frère
monteur.
Est devenu monteur. Et moi, réalisatrice, donc il y a quelque chose dans la famille, il y a un atavisme. On allait au cinéma vraiment très souvent, c'était vraiment une grosse passion familiale. Donc lui, mon père, il est un peu catastrophé parce qu'il pense qu'il ne nous a pas laissé le choix. Moi, je suis plutôt contente parce que vraiment, j'adore ce que je fais. Mais c'était une passion quand même d'il y a longtemps.
Familiale. Familiale. Et donc, si je comprends bien, puisque vous allez souvent au cinéma, vous avez été nourrie au 7e art. Mmh. Est-ce qu'il y a des cinéastes qui vous ont marqué dans les films que vous avez vus enfant?
Il y a beaucoup de cinéastes qui m'ont marqué. Il y a Woody Allen qui m'a marqué le plus, je pense, parce que enfin, dans le genre comédie, moi, je peux crever de ces films, même si maintenant il est un peu décrié pour d'autres raisons, mais ces comédies, c'est quand même une merveille. Il y a les Monty Python qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué aussi dans le genre comédie. Et après, quand j'étais plus grande, quand j'ai été étudiante, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des comédies, mais il y a un réalisateur qui m'a complètement obsédée qui s'appelle John Cassavetes, dont j'ai été voir tous les films. C'est la première fois que j'allais au cinéma toute seule. Et j'ai vu ces 12 films parce qu'il y avait une rétrospective à l'époque.
Cinémathèque
Même pas, je crois pas. Parce que c'est Depardieu qui avait sorti ces films, et donc je crois que c'était dans les salles du Quartier Latin, mais pas la Cinémathèque. Et là, j'ai pris
clairement.
Oui, également. Et puis, j'adore également Polanski. Non, je plaisante. Et Cassavetes, c'est pour vraiment une claque de cinéma. Je serais incapable de faire ce qu'il fait et je ne suis pas du tout à cet endroit. Mais, ni Woody Allen, d'ailleurs, ni les Monty Python. Mais c'est dans les trois, on va dire, personnes qui me viennent à l'esprit là tout de suite.
Je rebondis sur Cassavetes parce qu'on se souvient de certains films où c'était à la bricole, c'est-à-dire qu'il y avait une ampoule qui éclairait plus ou moins la table de cuisine. J'imagine que ça vous donne aussi de l'espoir en disant on peut faire des films avec peu de moyens.
C'est vrai, ça me donne à la fois de l'espoir et à la fois un peu les jetons parce que j'ai l'impression que plus je fais des films et moins j'ai de moyens pour les faire. C'était l'improvisation, c'était la famille, c'était l'alcool, c'était plein de choses. Et c'était l'époque aussi. Quand on voit ces films aujourd'hui, en tant que femme notamment, moi j'ai montré Husbands à mon fils là, et j'étais mal à l'aise parce qu'il y a quand même des scènes d'humiliation de femmes qui à l'époque m'avaient pas du tout gênée et qui aujourd'hui, avec mon fils à côté de moi, qui me regardait, genre mais enfin, tu es folle.
Vraiment ?
Oui, on est sûr de cette scène. Et ben c'est quelque chose, mais ça reste un cinéaste magique et immense et qui a réinventé le cinéma à ce moment-là.
Cécilia, vous mentionnez que votre fils de 21 ans était un peu surpris de vos goûts et se questionnait sur... Mais en même temps, c'était effectivement l'époque. On repense à l'époque, le dernier tango à Paris. J'imagine que pour la génération actuelle, c'est juste un choc.
C'est inacceptable. Je pense que c'est totalement inacceptable. Et même, on a revu aussi avec mon autre fils de 16 ans, Il était une fois en Amérique, qui est un film génialissime, dont j'avais un souvenir génial, que mon mari adore, etc. Et c'est pareil, il y a une scène de viol qui est insupportable dans le film, qui nous avait complètement échappé à l'époque où on l'a vu, qui m'avait encore échappé il y a 15 ans quand je l'ai revu. Et c'est juste là, parce que je l'ai montré à mon fils, que tout d'un coup, je me suis dit, mais enfin... Et lui aussi m'a encore dit, mais vraiment. Et c'est fou, parce qu'on a vraiment changé notre façon de voir le cinéma et les scènes de cinéma. Et je pense que c'est très bien. Après, ça reste des grands films, etc. Mais c'est incroyable ce qu'on était capable d'encaisser quand même à l'époque sans broncher, quoi.
Oui, la ligne de lecture a totalement évolué. Depuis MeToo encore plus.
Ouais, bah oui, c'est ça, c'est le grand, c'est la grande leçon de MeToo pour les femmes de notre génération. C'est, on a, enfin voilà, moi j'ai vraiment appris énormément de choses sur le fait d'être une femme avec des gamines de 20 ans. C'est sûr que là j'apprends et j'espère apprendre bien et apprendre encore longtemps.
Bah justement, je pense que les gamines de 20 ans, même si vous en avez dans vos films, vous êtes une femme. Donc elles se sentent quand même plus sécures qu'avec un homme.
Oui, puis moi globalement, je suis quand même assez inoffensive comme personne, et comme réalisatrice en particulier, parce que je trouve aussi que le monde, enfin finalement être acteur, même si c'est un très joli métier, c'est un métier qui peut être compliqué, parce qu'on donne quand même beaucoup de nous, et surtout on est jugé immédiatement par plein de gens qui nous regardent faire, et c'est quand même pas rien je pense pour eux. Et je pense qu'ils ont tous plus ou moins des expériences d'humiliation assez compliquées au compteur.
Y compris les hommes.
Et moi, j'essaie de ne pas en rajouter, de faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est mon moteur à moi, déjà. Et puis, parce que je trouve qu'ils travaillent tous beaucoup mieux, comme dans tous les boulots, hein, quand on n'est pas humilié, quand on n'est pas... quand on est respecté, quand on est bien aimé, quoi. Donc c'est vrai que mes plateaux, ils sont plutôt cool pour ça. J'espère que tout le monde s'y sent bien, je crois.
Oui, justement, par rapport justement, au statut de comédien, de comédienne, les acteurs, ils restent tributaires, en fait, du bon vouloir de la personne derrière la caméra.
C'est ça.
Même s'il y a du respect.
Oui, ils restent tributaires déjà du désir du réalisateur de les engager sur les films. Et puis après, c'est quand même ce qui se passe techniquement, si on dit moteur, action, et puis la personne fait quelque chose et ensuite elle est quand même jugée immédiatement. Alors moi, je fais en sorte qu'on soit bien tous conscients qu'il s'agit de travail et que donc on avance, et jamais de ma vie je dirais c'est pas bien, etc. Mais ils se le prennent souvent, le c'est pas bien devant une équipe de 40 personnes qui regarde ses pompes, c'est dur quoi, c'est pas anodin je pense. Et ils ont tous quand même des récits à faire. Il y a quand même pas mal de douleurs, je trouve, dans ce travail, quoi. Et moi, j'essaie de faire en sorte que... Parce que j'en ai besoin aussi, hein, c'est un peu égoïste aussi, mais moi, j'aime bien quand tout le monde va bien, que tout le monde est content, ça m'aide énormément à travailler. Mais je pense aussi que les acteurs me sont quand même assez reconnaissants de ça, parce qu'ils se sentent, je dirais, en sécurité. Voilà, c'est quelque chose que j'essaie d'installer. Et toute l'équipe avec moi, on est entouré que de gens extrêmement bienveillants, et c'est pas rien, c'est pas rien.
Cécile Roux, j'ai lu que donc vous aviez, par amour, je ne savais pas, je le découvre, mais que vous avez commencé à travailler comme troisième assistante. C'était Meilleur espoir féminin.
Alors c'est pas, je l'ai fait, j'ai travaillé sur ce film. C'est pas le tout premier que j'ai fait. Le tout premier stage, c'était justement avec Jacques Fonstein, le réalisateur du film dans lequel j'avais joué quand j'étais petite, et qui faisait une série pour la télé qui s'appelait La Crèche. J'ai commencé avec lui. Et j'ai été stagiaire, mais ça s'appelait stagiaire, maintenant ça s'appelle troisième assistante. J'ai été stagiaire mise en scène longtemps, pendant 5 ans, puis peut-être encore 10 ans seconde assistante. Et après, j'étais sympathique comme seconde, mais première assistante, j'aurais été vraiment lamentable, parce que c'est vraiment un truc d'organisation, puis un peu de chef, un peu, on a la montre, il faut avoir un cerveau très bien fait, très, très carré, etc. C'est bon. C'était pas fait pour moi. Donc, heureusement, quelqu'un a accepté un de mes scénarios et j'ai pu réaliser.
Et vous avez aussi travaillé avec Chéreau, il me semble ?
Oui, j'ai été seconde assistante sur son dernier film, dont le titre m'échappe.
Gérard Jugnot aussi.
Et Gérard Jugnot, j'ai travaillé avec lui sur Meilleur espoir féminin et Monsieur Batignol. Et Persécution, le film de Chéreau. Et aussi un film de Clapiche, Ma part du gâteau. Ma part du gâteau.
Ah bah... Un bon parcours avec des grands noms, des gens qui ne sont pas décriés pour l'instant.
Non, pas encore.
Voilà. Et puis après, vous faites un court-métrage et vous passez au premier long. Je me suis fait tout petit. Oui, d'ailleurs, apparition de votre père.
Ah, mon père, il est dans tous mes films.
Voilà. Et là, vous vous offrez quand même une distribution magnifique, parce qu'il y a Vanessa Paradis,
Denis Ménochet,
Léa Drucker
et Laurent Lucas.
Voilà. Ouais. Vous avez fait fort.
Ben, j'étais pas peu fière de ce petit casting. Autant vous dire que quand ces gens-là ont dit oui, j'ai vraiment flippé là pour le coup. Mais non, c'était... Oui, c'était un peu magique. Notamment la rencontre avec Vanessa Paradis où j'étais dans un hôtel magnifique parisien Moi, j'avais jamais été dans un hôtel aussi chic, donc j'ai commencé par balancer mon scooter sur une Mercedes en arrivant.
Il y avait des caméras de surveillance, bien sûr.
Heureusement, les vigiles de chez Cartier, qui sont hyper gentils, ont ramassé mon scooter, ils ont fait tout sur la voiture pour que ça se voit.
Et c'était celle de Vanessa?
Non, c'était pas celle de Vanessa. Mais c'était vraiment, je me suis dit, bah là, je suis vraiment tout à fait dans les bonnes conditions pour la rencontre.
Et en fait, elle vous a vu faire ça?
Elle m'a pas vu faire ça, elle m'a vu, je pense, casser le verre juste après avec mon casque. Et je lui ai surtout raconté, elle a beaucoup rigolé et on s'est tout de suite beaucoup
bien entendu.
Ouais, c'est quelqu'un de vraiment que j'aime énormément.
Avec des autres comédiens, leur rencontre.
Ménochet, c'était génial parce que ça m'a l'impression de rencontrer mon frère.
Il est très généreux.
Ouais, c'est un type épatant. Il est très, il est assez douloureux comme acteur. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, mais c'est un humain génial et hyper généreux. On a beaucoup ri. Enfin, j'avais vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un que je connaissais depuis toujours.
Léa Drucker,
elle reste dans ma vie encore aujourd'hui. En plus, on est voisines et c'est vraiment quelqu'un de... C'est vraiment une Anglaise, quoi. C'est l'humour british, l'élégance absolue, le talent. Et Laurent Lucas, je l'ai perdu de vue. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais c'est pareil, c'est un petit peu... C'est le Canadien, lui. Le bon gars, hyper talentueux, hyper simple.
Authentique.
Ah ouais, très authentique. Mais globalement, j'essaye de... J'ai un petit talent. C'est que j'arrive à trouver chez les acteurs les bons, quoi, les vrais, les gentils, quoi. Et je ne me suis pas trompée jusqu'ici.
Ceux qui n'ont pas trop le melon, qui ne sont pas un but de leur personne.
Ouais, ceux qui ne sont pas autre chose que ce qu'ils sont, quoi.
Ouais. Ouais. Et pour le second long-métrage, là, vous avez également procédé de la même sorte, en jetant votre scooter sur une Mercedes.
J'ai jeté mon scooter immédiatement sur une Mercedes. Voilà.
Il faut changer de marque au bout d'un moment.
Oui.
Il y a des Audi.
C'est vrai, je ne sais pas ce qui m'a...
Lamborghini.
Il y a Tesla. Il faudrait les jeter sur les Tesla.
Je ne sais pas si à l'époque, il y en avait.
Peut-être pas. Bah, je vais jeter mon... J'ai plus de scooter. Je vais acheter un scooter. Je vais jeter sur une Tesla.
Ouais. Ça perd la cote. Hein.
Ça,
elles sont un peu décriées.
Bah, justement. C'est le moment de balancer mon scooter.
Bon, alors, ça va.
Bah, allez. Mm. Non, là, c'était différent. Alors, Vanessa, elle était dans le film parce que j'ai écrit le rôle pour elle. Et c'était un film qui était produit au départ par Agnès Jaoué et Jean-Pierre Bacri, que j'avais rencontré via mon frère qui montait un film d'Agnès. Enfin,
beau tandem.
Voilà.
À la ville comme à la scène.
Bien sûr, qu'on aime tant et qui nous manque tellement. Ouais.
Et qui osait parler aussi.
Qui
osait prendre parole.
Qui osait avoir des situations très engagées. Ouais. Qui était un vrai authentique humain formidable. Et donc, le film était au départ produit par eux. Et la premier rendez-vous que j'ai eu avec Agnès Jaoué pour parler justement de la production du film, elle m'a dit « ça te dérange pas si Jean-Pierre passe ?» Je lui ai dit « pas du tout », mais à l'intérieur de moi, bah, j'étais liquide parce que moi, c'était mes idoles. Hein, donc déjà, elle, c'était gros, mais lui, c'était gros. Et puis, il est arrivé, il m'a dit « je voulais voir qui a écrit ces dialogues ». Et là, c'est la phrase qui m'a... Alors, je me suis dit « bon, bah ça y est, je peux mourir tout de suite ».
Respect,
ouais, ça, chapeau c'est bas. Beau, ça, c'est classe. Mmh. Et puis, il m'a demandé à qui je pensais pour le rôle du père et je lui ai dit « j'ai osé dire vous ». Et il m'a dit « d'accord ». Donc, voilà, c'était un des plus beaux jours de ma carrière de réalisatrice. Et après, tous les jours, voilà, le travail avec lui, c'était dingue.
Cécilia, vous venez de mentionner justement qu'il est venu vous féliciter sur les dialogues. Oui. Justement, vous êtes à la fois scénariste et cinéaste. Et par contre, vous n'avez pas écrit le scénario pour tous vos films.
J'ai pas écrit le scénario d'Adieu Jean-Pat. Mm-hmm. C'est le seul pour lequel j'ai pas écrit le scénario, qui m'a été proposé par Laurent Tirard, qui a écrit le scénario avec Fab Caro, voilà, et qui était malade. Au moment où il m'a proposé son film et qui n'était pas sûr de pouvoir le tourner. Il avait d'autres projets aussi, donc il ne savait pas ce qu'il allait faire et comment ça allait se passer. Donc il a décidé de confier son film à quelqu'un et j'ai eu la chance que ça tombe sur moi. Voilà. Et puis il est décédé au premier jour du montage. Il a finalement pas vu le film, pas vu les images du film.
Par contre, c'est tombé sur vous parce qu'il avait vu vos travaux précédents,
oui.
Vos créations, et vous avez pu échanger avec lui par rapport à l'écriture.
Oui, on a. En fait, il m'a. Alors, c'est les producteurs du film, dont sa femme, Olivia Lagache, qui ont proposé mon nom. Lui, il avait vu mes films, donc il a dit d'accord, il était content, parce qu'il trouvait qu'il aimait bien dans mes films que ce soit des comédies, mais qu'il y ait toujours un peu d'émotion, un peu de profondeur. Voilà.
Vous avez spoilé une question.
J'ai spoilé. J'arrête pas de faire ça.
Vous arrivez à lire à l'envers.
Je suis la Poutine de l'interview. Je spoil comme
une
malade.
Moi, je pensais à ma sorcière bien-aimée. Moi,
également.
Je Poutine. Bon, voilà. Je suis un peu décriée, hein, si je peux me permettre.
Oui, bah voilà. Bah,
ma sorcière bien-aimée, c'est plus neutre.
C'est moins décriée. Je me demande si Jean-Paul n'a pas quand même violé des petits... Bon, Jean-Pierre, comment il s'appelle? En tout cas, qu'est-ce que je disais
Vous avez échangé.
Qu'on a échangé, oui, parce que donc lui, il aimait ça dans mon travail, et moi, j'aimais lui, parce que c'est un mec extrêmement élégant, chaleureux, puis c'était un cadeau qu'il me faisait, quoi.
C'est de la confiance aussi qui
vous
exprime.
Oui, c'est fou. Et Fab Caro, qui est quand même un génie absolu, donc j'ai lu le scénario, évidemment, en disant déjà oui d'avance, mais... La seule chose que j'ai vraiment, enfin, que j'ai demandé, c'est qu'on modifie des personnages masculins en personnages féminins, parce que je trouvais que ça changeait quand même beaucoup la face du film. J'avais vraiment envie qu'il y ait beaucoup de femmes autour de lui, que lui soit comme un type perdu au milieu de toutes ces femmes qui vont beaucoup plus vite que lui. Voilà. Je pensais au film Punch Drunk Love avec Adam Sandler, où il a 7 sœurs. Et qui est un espèce de chef-d'œuvre absolu. Il est complètement brinque-ballé dans cette vie. Et je pensais à ça. Et donc, ça, c'est la chose que j'ai demandé avant de dire vraiment oui, même si je savais que j'allais dire oui. Il a tout de suite accepté l'idée. Ouais. Et après, on a beaucoup dialogué autour du scénario, parce qu'on a forcément fait... Moi, après, quand on s'empare d'un film comme réalisateur, on a quand même... Quand on met les mains dedans, on a plein d'idées qui nous viennent, puis des choses qui nous paraissent moins pertinentes. Et donc, il y a quand même pas mal de modifications du scénario. Et on a beaucoup dialogué ensemble, et c'est un type... Bah déjà, il était hyper rapide pour écrire, hyper talentueux, hyper smart, quoi. Donc, c'était super agréable. Et moi, j'ai pris ma petite leçon et de travail, et d'humilité, et d'élégance avec lui, quoi.
Et d'humanisme, parce que c'était un acte généreux qu'il vous offrait aussi.
Ouais, c'était vraiment un type charmant, vraiment, quoi. Il me faisait ce cadeau, il m'a laissé les mains libres pour tout. Il n'a absolument rien... demandé, évidemment je parlais de lui, je parlais de tout avec lui, mais il m'a laissé son
carte blanche,
son film, ouais, donc c'était délicieux, quoi.
Alors à propos d'Adieu Jean Pâte, Cécilia, vous avez une distribution juste incroyable, qui donne le vertige. Vous avez pensé déjà, quand vous avez reçu le scénario, à qui attribuer les rôles, ou c'est venu en cours de gestation ?
Non, c'est venu en cours de gestation. Après, assez vite, j'ai eu de la chance. Les gens auxquels j'ai pensé ont accepté le film. Et après, en casting, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas forcément et qui se sont révélés au casting déments. Donc voilà, c'est un mélange de ça, de gens auxquels j'ai pensé et puis de gens... que j'ai découvert en casting, et je suis hyper fière du casting, parce que c'est des gens qui viennent d'univers très différents, qui n'étaient pas du tout, potentiellement qui auraient pu ne jamais se rencontrer, et ça a créé quelque chose de super chaleureux, très sincèrement chaleureux entre eux. Ils se voyaient en dehors de moi, ils faisaient des grandes bouffes tous ensemble.
Sans vous ?
Bah, j'étais invitée, mais moi je travaille. Eux, après, au bout d'un moment, ils font plus rien. Mais c'était super émouvant pour moi de les voir tous ensemble. C'est un truc que j'adore. J'adore créer des liens entre les gens. Ça, c'est très chouette. Puis le travail sur le plateau, quand les gens sont clients les uns des autres, c'est génial, parce qu'il surgit des choses qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas prévues, qui sont très chouettes, quoi. Donc non, c'était très joyeux, c'était très sympa.
Quelques mots peut-être sur les rôles principaux, comment les avez-vous choisis ?
Alors, donc Constance Labbé, qui joue le rôle de sa meilleure amie Léo, c'est en casting. Alors, je connaissais son mari, Tom Leb, qui est un acteur que j'adore et qui j'avais tourné un téléfilm un peu avant. Et elle, je ne la connaissais pas comme actrice, je n'avais jamais vu jouer. Et elle est venue en casting et elle m'a fait un truc totalement... elle a écrasé vraiment littéralement la concurrence, c'était très joli ce qu'elle a fait. Et elle est absolument radieuse. C'est pareil, c'est des filles qui sont magnifiques et qui s'en foutent complètement, qui sont pas du tout là-dessus, qui sont même pas au courant, je pense. Et en même temps, un naturel, elle a une petite voix éraillée, elle fait tomber tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde est fou d'elle. Elle est absolument géniale. Elle est très drôle fille. Nora Hamzaoui, que j'avais vue sur scène aussi, que je connaissais pas. Enfin, j'avais vu des films dans lesquels elle avait joué, mais c'est quand même quelqu'un surtout que j'avais vu en stand-up, qui est une personnalité hyper attachante. Elle est complètement barrée, en même temps, pareil, super, super intéressante, très concernée par son personnage. Là, elle propose un truc qui est très, très, très rigolo, complètement nouveau, je trouve, hein. Et Valérie Carcenti, avec qui j'avais déjà tourné dans mon premier film, Je me suis fait tout petit, elle avait un rôle là-dedans, et que je suis depuis, qui est une fille, pareil, elle joue le rôle d'une mère éplorée là-dedans, Adieu Jean Pâte, et pourtant, on est mort de rire tout le temps, alors qu'elle vient de perdre son fils de 35
ans. Avec sa petite voix.
Avec sa petite voix. Et ses petites mimiques, elle a un rythme qui est complètement dingue. Gustave Carverne, Bah voilà, moi, mon père, elle a le passeport groenlandais depuis toujours. Sur sa voiture, il y a Groland.
Donc c'est héréditaire.
C'est héréditaire. J'adore ce type. C'est pareil. J'avais l'impression de rencontrer quelqu'un que je connaissais déjà. C'est un poète.
Mais on n'a pas parlé d'Étienne.
Et on n'a pas parlé d'Étienne Hakim. Bah Hakim, alors je l'ai rencontré par Jimmy. Hakim Jemili, pardon. Je l'ai rencontré par le stand-up. Pareil, je vois beaucoup d'acteurs en stand-up, j'adore ça. Je trouve qu'il y a un vivier.
Une énergie aussi.
Oh là là, c'est extraordinaire. Puis ils écrivent, quoi. Ils écrivent super bien, c'est super précis. C'est Laura Felpin, je l'avais rencontrée comme ça aussi, par la scène, quoi. Et non, pas du tout, en plus, n'importe quoi. C'est William Lebgill qui me l'a présentée. Mais en tout cas, je l'ai vue depuis sur scène, elle est géniale. Bon, bref. Et donc, Hakim, je le connaissais de la scène, mais je n'avais jamais vu de film avec lui.
Pourtant, il est partout, hein. Cette année, il y avait beaucoup de films.
Et bien, cette année, du coup, j'ai tout vu, maintenant, parce que je le suis, ce petit garçon. Mais il a ce truc que je recherchais pour le film, c'est qu'il est immédiatement super attachant, quoi qu'il fasse. Parce qu'il est grand, qu'il est dans son corps un peu mal emmanché. Voilà, il ne sait pas trop quoi faire de lui. Il a une poésie, une douceur, il a une voix super douce, et à la fois, il envoie des phrases, des punchlines hyper bien. Enfin, il est vraiment, il a le rythme de la comédie dans le sang. Il est hyper intelligent, il est très chaleureux, très généreux. C'est un type vraiment formidable. Donc c'est, voilà, je me suis dit, lui, s'il dit oui, on est bien, parce qu'il va tenir le film, il va tenir avec beaucoup d'humilité, sans prendre, c'est pareil, c'est...
Il est fédérateur un peu à travers
ça. Il est super fédérateur, les gens l'aiment, les gens ont envie de jouer avec lui. Il est super client des autres, donc il laisse beaucoup d'espace. C'est un personnage, c'est un type charmant, et j'adorerais continuer à travailler avec lui, quoi.
Cécilia, on dit que dans le cinéma, les difficultés, c'est tourner avec des enfants, tourner avec des animaux, ou avoir un film choral à diriger. Ouais. Là, vous avez quand même deux difficultés. Il y avait des pré-ados, d'une part, et d'autre part, le film choral. Comment avez-vous procédé ?
Ce qui m'a porté le plus préjudice, c'est le chien. Parce qu'il y a un chien.
Ah, il y a un chien, j'ai oublié.
Bah parce qu'il est à peine dans le film, parce qu'il ne souhaitait pas être dans le cadre. Donc, pas compliqué. Il était terrible.
Un capricieux.
Mais surtout que c'était pas un chien de cinéma, c'était pas un chien dressé, c'était un chien. Mmh. Et en fait, le principe du chien, c'est qu'à un moment, il fait quand même un peu ce qu'il veut. Mmh. Parce que c'est un chien et pas un être humain. Qui
Il y a même des humains qui font ça.
Il y a des humains qui font ça, mais j'en ai jamais rencontré.
En tout cas, trois difficultés.
Trois difficultés. Alors, le film choral, c'est... Oui, alors là, en plus, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs tous en même temps. Le secret, pour moi, c'est d'avoir tellement glingué l'aspect technique. C'est-à-dire qu'on a tellement préparé et travaillé en amont avec le chef opérateur, avec la première assistante, avec la déco, avec les costumes et tout, que je suis super prête, toute l'équipe est super prête, et moi, je n'ai plus que à gérer les acteurs. À gérer. C'est très mal dit, mais en tout cas, je n'ai plus à m'intéresser qu'à eux. En gros, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça.
Le chef d'orchestre, quoi.
Et après, voilà, c'est vraiment de les regarder, de les entendre, de les écouter, et ça se passe très bien comme ça.
De voir la symbiose entre eux.
Voilà, de créer les conditions de la symbiose entre eux, de la symbiose avec l'équipe, de la symbiose avec moi, d'être suffisamment doucement autoritaire pour que les choses quand même roulent, mais avec tellement d'amour que... C'est comme une colo, je dirais. Moi, j'étais animatrice quand j'étais jeune, et je retrouve la même idée, c'est qu'il faut les aimer tous très fort. Si on les aime assez, les enfants ou les acteurs ou les gens, il y a de bonnes chances que tout se passe bien.
Et sans préférence, idéalement.
Et sans faire de préférence.
Malheureusement, le temps passe vite avec vous, Cécilia, donc on doit bientôt vous quitter. Oui. J'avais encore plein de questions, même si je ne les lis pas, vous voyez, elle n'est même pas besoin de lunettes.
Un grand bravo.
Merci infiniment. Mais en fait, j'ai entendu dans une interview, dans un précédent film, il semble le deuxième, vous disiez que vous avez toujours besoin à la fois de susciter la comédie, évidemment, vous étiez à l'Alpe d'Huez d'ailleurs, mais aussi d'avoir des moments d'émotion intenses. Et c'est le cas ici.
Oui, c'est vraiment ce que je recherche, c'est de la légèreté dans le dur et de la gravité dans le rire. C'est cet endroit-là où moi je suis très à l'aise, enfin où moi c'est cet endroit qui me plaît, c'est vraiment ma recherche. Quand j'arrive à ça, j'ai l'impression que j'ai bien fait mon travail. C'est cet endroit-là, comme dans la vie, quoi, où on n'est pas tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de rigoler, on est à des endroits de limite, et moi j'adore quand dans une comédie je ris et tout d'un coup je suis prise au ventre parce que j'aime assez les personnages pour chialer avec eux, quoi. Et j'ai l'impression que j'ai bien travaillé, si on pleure un peu dans mon film quand même.
C'est le cas avec Adieu Jean-Pat. Je vous souhaite une bonne dégustation des chocolats suisses, mais surtout une bonne avant-première d'autres films. Merci. Aujourd'hui, aux Eaux Vives à Genève. Merci Cécilia.
Merci beaucoup, merci à vous.